Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un des plus grands alpinistes français que Franck Ferrand reçoit aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Pierre Mazaud a dirigé à l'automne 1978 la première expédition française qui ait gravi l'Everest. Et parallèlement à ce parcours d'alpiniste, il a mené, vous le savez, une brillante carrière juridique et politique couronnée par la présidence du Conseil constitutionnel. C'est donc, vous l'aurez compris, une émission d'altitude que je vous propose cet après-midi.
Et à la fin de l'émission, pour redescendre dans la vallée, vous répondrez à la question que vous a posée Lucille via Twitter à propos des origines du salut militaire.
Et oui, d'où vient-il après tout ce salut militaire? Je répondrai bien volontiers à Lucille. Pour le moment, hissons-nous donc vers les sommets. L'oxygène ne va pas tarder à se raréfier dans ce studio.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Commencer par l'exploit bien connu de Jacques Balma et du docteur Michel Paccard, vainqueur du Mont Blanc en 1786. Peu après 18 heures en ce 9 août historique, ils avaient passé 33 minutes au sommet de la célèbre montagne réputée inaccessible avant eux. Après quoi, ils étaient redescendus, tranquillement si je puis dire, de sorte que l'exploit m'a paru manquer un peu de la dose de drame nécessaire. Et je me suis dit, parlons plutôt du Cervin. Le Cervin, rien que son nom, des siècles durant aura fait trembler les habitants des vallées voisines. Ils n'y voyaient que le séjour des spectres et des démons. Avant Whymper et ses compagnons, on a compté plusieurs tentatives infructueuses de gravir les 4482 mètres du Mont Cervin. Autant d'échecs. Le Cervin, disait-on, est invincible. Pourtant, le 15 juillet 1865, en toute fin de matinée, trois alpinistes pantelants, trois fantômes en vérité, atteignent à bout de force le village de Zermatt. Admirez-les, ces trois hommes sont les vainqueurs du Mont Cervin. Ils viennent de gravir, certes pas la plus haute, mais la plus difficile, la plus convoitée des montagnes d'Europe. Pourquoi, dans ces conditions, afficher la mine lugubre, le regard éteint des vaincus? On les entoure, on les questionne, où sont les autres? Mais où sont les quatre autres? Pas de réponse. Voilà pourquoi ils ont l'air si abattus. Partis à sept, ils rentrent trois. On les entraîne dans une auberge, on les réchauffe, on les hydrate, et après un long moment, Whymper sort du silence lointain qui l'enveloppait. Il prend enfin la parole, d'une voix atone. Ce qui va sortir de ses lèvres desséchées, c'est le récit de l'ascension du Mont Cervin, autant dire à ce jour, une des plus tragiques ascensions de l'histoire alpine. Edward Whymper vient d'Angleterre où il exerce la calme profession d'artiste illustrateur. Lors des cinq années précédentes, de 1860 à 1865, il s'est attaqué sept fois au Cervin et sept fois il a échoué. Cette tentative du 14 juillet 1865 est donc la huitième pour lui. Elle aura été la bonne, si l'on peut dire. Écoutons son récit de l'affreux exploit. Ils sont donc partis à sept avec, dans le dos, le soleil tout juste levé. Ils ont attaqué par la face est, celle qui domine le village, face très raide, non sans céder parfois de la crête nord-est. Certaines portions sont tout de même très raides et Ado, le moins expérimenté, a commencé très tôt les signes, à montrer des signes de faiblesse. Rien de bien grave. À 6h30 du matin, la cordée, ou plutôt le groupe, car ils ne sont pas encore en cordée, se trouve déjà à 3932 mètres. À 10h, on les retrouve à 4270 mètres, plus que 200 mètres, direz-vous, oui, mais sous la forme d'un mur impraticable, presque vertical. On s'appuie sur l'arête. On la déborde, on passe sur la face nord, légèrement moins abrupte, mais recouverte, on est au nord, d'une pellicule de glace. Au-dessous, un vide de quelques 1200 mètres jusqu'au glacier du Cervin. Allons-y, Croze, Whymper, Hudson en tête. Pour le moment, ils traversent horizontalement la face sur environ 120 mètres et puis ils vont attaquer en hauteur sur 20 mètres seulement avant de faire un nouveau crochet vers l'arête nord-est. Ils sont maintenant très près du but. Là-haut, sur le bord de l'arête, il leur reste à franchir un épaulement rocheux. Ils le contournent, ils enjambent l'abîme et se retrouvent sur une pente de neige qui conduit tout droit au sommet. Whymper et Croze sont ivres de joie, ils vont parvenir au sommet ensemble. Ils ont vaincu le mythique Mont Cervin. à moins que Carrel et ses Italiens, leurs concurrents directs, ne leur aient grillé la priorité, car ils ne sont pas les seuls à tenter l'exploit ce jour-là. Mais après vérification, il apparaît que l'autre équipe de grimpeurs est encore bien bas sur l'arête. On peut dire d'ailleurs que c'est très décourageant sans doute pour cette deuxième équipe. En apercevant les Anglais là-haut, au sommet, ils vont faire demi-tour, les Italiens, sans demander leur reste. Voici ce que raconte Whymper avec ce qui pourrait passer pour du cynisme mais qui en vérité n'est que de l'humanité. « J'aurais bien voulu que le chef de cette caravane ait pu être avec nous à ce moment-là, dira-t-il, car nos cris de victoire signifiaient pour lui la ruine de l'ambition de toute une vie. » Les sept hommes de Whymper, grisés de leur propre gloire, vont, comme cela, goûter leur exploit, s'attarder au sommet une heure durant. Croze fait flotter sa propre chemise en guise de drapeau de la victoire. Depuis le bas de la vallée, cette petite oriflamme va se voir. Il faut vous dire qu'il y en a qui, depuis le matin, scrutaient, évidemment, le haut du Mont Cervin. La nouvelle va faire tache d'huile. Ils ont réussi. Ils y sont arrivés. Depuis le sommet, Whymper de temps à autre jette un œil aux cimes alentour. Pas une n'est cachée ou seulement nuageuse, tout va bien. Ils étaient arrivés à 13h40, à 14h40, ils amorcent la redescente. D'abord jusqu'au petit passage, vous savez, le petit passage difficile de l'épaulement, où ils s'encordent enfin. Croze marche en tête, l'hésitant Addo est derrière lui, puis Hudson et Douglas, sans doute le plus faible de la cordée. Ferme la marche le vieux Taugwalder, Whymper, enfin le jeune Taugwalder. Tendons encore l'oreille vers la voix atone d'Edward Whymper. Croze avait posé son piolet et, afin de donner à Monsieur Addo plus de sécurité, s'emparait littéralement de ses jambes et mettait ses pieds l'un après l'autre dans la bonne position. Autant que je sache, personne n'était en train de descendre. Les deux hommes en tête étaient en partie cachés à ma vue par une masse de rochers, mais c'est mon opinion, d'après le mouvement de leurs épaules, que Croze, après avoir agi comme je l'ai indiqué, était en train de se retourner pour descendre lui-même d'un pas ou deux. À ce moment, Monsieur Addo glissa, tomba sur lui et le culbuta. C'est alors l'enchaînement fatal. Hudson est arraché de ses prises, Douglas aussi. Whymper et les deux Taugwalder, de toute leur force, vont s'arc-bouter pour éviter la chute de toute la cordée. Ils se cramponnent au rocher. Combien de temps est-ce que ça dure? Combien de temps cela peut-il durer? Soudain, entre Douglas et le vieux Taugwalder, la corde se déroule d'un coup, se tend. Elle rompt. Pendant quelques instants, raconte encore Edward Whymper, nous vîmes nos infortunés compagnons glisser sur le dos, étendre les mains, essayer d'échapper à la mort. Nous les vîmes disparaître sans blessure, les uns après les autres, et tomber d'abîme en abîme vers le glacier du Cervin, faisant une chute de près de 1200 mètres. Vengeance du Cervin vaincu. Difficile d'imaginer l'horreur après cela de la descente de Whymper et des deux Taugwalder, descente extrêmement dure au demeurant où ils vont friser la mort à plusieurs reprises, et encore plus difficile de se faire une idée de l'épreuve qui les attend en bas. Toutes les hypothèses seront formulées, forcément, et l'une d'elles, la pire, voudrait que Whymper et les Taugwalder aient délibérément coupé la corde pour sauver leurs trois vies. Croze, Hudson et Addo reposent aujourd'hui dans le cimetière de Zermatt. On n'a jamais retrouvé le corps de Lord Francis Douglas. Vous pensez qu'après cela, Whymper a peut-être renoncé à la montagne, renoncé à sa passion? Eh bien, vous vous trompez. Il refera quelques années plus tard l'ascension du Mont Cervin. Il continuera l'alpinisme au Groenland, dans les Rocheuses canadiennes et même jusque dans les Andes.
sur Europe 1, un extrait de la Symphonie Alpestre, c'était le lever de soleil. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'ascension du Mont Cervin.
Alors évidemment, depuis un siècle et demi, le Cervin a été escaladé un nombre incalculable de fois, y compris par des alpinistes assez peu expérimentés maintenant. La discipline a fait des progrès considérables. Pourtant, les amateurs vous diront que la magie de cette montagne reste intacte. 12 ans après l'exploit tragique du Cervin, en 1877 donc, le guide de haute montagne Gaspard va conduire la première ascension de la Meije en Dauphiné. On entre là dans l'époque des grands noms du sport alpin. Il faudrait citer Jean-Antoine et Louis Carrel, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Jacob et Melchior Anderegg, Alexandre Burgener bien entendu, Christian Almer, Mathias Hubriger, Franz Lormater, Joseph Knubel, Christian Klucker, Armand Charlet. Du Tour au Lavanchère et à la Joue, a écrit Roger Frison-Roche, chaque village d'Argentière s'enorgueillit de plusieurs lignées de guides célèbres. Il faudrait citer un autre anglais, l'infatigable Mummery, et tant d'autres, et sortir un peu des Alpes, parce que les alpinistes n'ont pas manqué, évidemment, de s'intéresser aux Pyrénées, aux Apennins, à l'Écosse, aux côtes de Cornouailles, en attendant le Caucase et un jour l'Himalaya. Au Nouveau Monde, on trouve aisément des sommets de plus de 5000 mètres. 6187 mètres pour le mont McKinley en Alaska. Il sera vaincu en 1910 par une équipe menée par les explorateurs Anderson et Taylor. En Amérique du Sud, le paradis des chercheurs de cimes s'appelle la Cordillère des Andes, évidemment. Extraordinaire suite de sommets de 8000 km de long, hein, avec du Venezuela au Cap Horn, d'extraordinaires cimes à escalader, bien entendu. Juste au sud de l'équateur, notamment, se trouvent quelques-uns des volcans les plus élevés du monde, à commencer par le Chimborazo, que Bolivar appelait la tour de guet de l'univers, et par le Cotopaxi, qui a été vaincu en 1872 par le géologue allemand Wilhelm Reit. Quant au Chimborazo, en 1880, est-ce que vous savez qui en est venu à bout? Eh bien, un certain Edward Whymper, c'est bien le même dont on parle. Quand on descend dans le sud du Pérou, la cordillère orientale, qui est en partie semée de vestiges incas, en tout cas peut-être pas dans sa partie la plus élevée, mais tout de même, cette cordillère orientale propose des sommets parmi les plus prisés de l'histoire de l'alpinisme, notamment le Salcantay de 6264 mètres, qui a été gravi par Bingham et par ses compagnons en 1914. Vous comprenez qu'on va évidemment de plus en plus haut et qu'on se rapproche de notre époque. Je voudrais tout de même insister un instant sur l'esprit d'aventure, sur le mépris du danger de tous ces alpinistes qui, de génération en génération, relevaient comme ça le défi de leurs aînés. Dans la première moitié du XXe siècle, cette sorte de course aux cimes a même pu tourner à la rivalité meurtrière, notamment entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, qui encourageait beaucoup cette émulation fatale. Un exemple parmi cent. À la mi-juillet 1936, dans l'Oberland bernois, deux jeunes Bavarois et deux jeunes Autrichiens sont partis à l'assaut de l'invincible Eigerwall, le mur de l'ogre. Ils grimpaient quasiment sans prise, s'aidant des doigts mais aussi des orteils. Ils avaient passé une première nuit debout, amarrés littéralement au mur, puis une deuxième sous la neige et le grésil, toujours dans ce genre de position intenable, avant de reprendre leur progression à l'aube du troisième jour. Vers midi, ils allaient toucher au but. Restait peut-être 300 mètres à faire. Seulement, les jeunes sportifs étaient visiblement à bout de force. Ils ont cessé de grimper. Ils se sont stabilisés sur la paroi, après quoi tous ceux qui les observaient aux jumelles depuis la vallée les ont vus commencer à descendre, puis s'immobiliser encore. Et maintenant, ils ne peuvent plus ni monter ni descendre. Des guides se lancent immédiatement à leur secours par une voie transversale. Mais alors qu'on va tenter de secourir ces quatre garçons devenus des espèces de loques humaines, raidis dans un ultime effort, l'un des quatre dévisse, étrangle le deuxième avec sa corde au passage, arrache les prises du troisième, ne restera en vie que le quatrième, crispé, tremblant, collé à ce mur gigantesque et qui va devoir passer une troisième nuit comme ça, debout, plaqué à la muraille, le corps suspendu au-dessus de l'abîme, attaché au cadavre de deux de ses camarades. Je cite James Ullman. Le lendemain matin, par miracle, il était encore en vie, mais si faible qu'il pouvait à peine parler ou bouger. Les guides recommencèrent leurs lugubres efforts pour parvenir jusqu'à lui, et cette fois réussirent à s'installer sur une étroite vire à peu près à 30 mètres au-dessous de lui. Mais il leur fut impossible d'aller plus loin. Entre Kurtz et eux se trouvait un surplomb verglacé, et s'y aventurer d'un seul pas eût été aller au-devant d'un suicide évident. Ils appelèrent Kurtz et lui dirent de couper la corde qui l'attachait au corps de ses camarades, ce qu'il fit à coups de piolet. Puis, rassemblant ses dernières forces, il noua plusieurs cordes ensemble et les fit descendre jusqu'au guide. Il était si faible à ce moment que ces deux opérations lui prirent 3 heures. Par les cordes qui pendaient, les guides lui envoyèrent une boucle de cordes nouées d'une façon particulière. Comme il ne leur était pas possible d'aller jusqu'à lui, c'était à lui de l'utiliser pour descendre s'il lui en restait la force. Lentement, patiemment, il enroula la corde autour de son corps, se pencha dans le vide et commença à descendre. Au-dessous, les hommes pouvaient entendre son souffle rauque et voir les clous de ses chaussures racler faiblement le rocher. Quelques instants plus tard, il était si près que l'un des guides, en équilibre sur les épaules des autres, pouvait presque toucher ses pieds. Puis soudain, la corde se coinça et Kurtz s'arrêta de descendre. Pendant une seconde de tension désespérée, il s'accrocha des doigts et des orteils au bombement de glace lisse du surplomb, mais il était à bout de force, son piolet échappant de ses mains tomba en tourbillonnant. L'instant d'après, il lâchait prise, basculant dans le vide et suspendu à bout de corde. Il mourut. Cette histoire est une des nombreuses qu'on aurait pu citer. J'en ai là dans l'article en question, dans l'article d'Ullmann, il y en a une bonne trentaine du même genre. On pourrait encore se poser des questions sur ce qui a, dans l'entre-deux-guerres, poussé tous ces jeunes sportifs à vouloir absolument accomplir des exploits dont ils n'avaient à l'époque pas les moyens. Nous allons voir qu'heureusement, toutes les aventures de l'alpinisme ne se terminent pas de la même manière et nous allons maintenant évoquer un certain nombre de grands succès.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous restons en altitude avec vous, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de l'alpinisme.
Alors jusqu'ici, vous l'aurez remarqué, Céline, j'ai mis de côté l'Himalaya, évidemment, ces montagnes qui séparent l'Inde du Tibet et qui pendant des siècles n'ont été sur les cartes qu'une sorte de grande zone blanche, inconnue. Mais puisqu'il y avait des Anglais en Inde, vous deviez bien penser qu'il y aurait des alpinistes dans l'Himalaya. Dès 1818, deux Britanniques, Lloyd et Girard, vont gravir 5800 mètres au Léopardial. En 1851, un porteur solitaire de l'Indian Survey, l'Indian Survey c'est le service topographique des Indes britanniques, atteint le sommet de la Shilla à quelques 7000 mètres. Puis, en 1883, une caravane conduite par Graham multiplie les ascensions dans le Sikkim, dont certaines vont assez régulièrement au-delà de 7000 mètres. On arrive à l'horizon des années 1890 qui vont être celles de la course à l'Himalaya. Le grand alpiniste Conway, déjà vainqueur de bien des sommets de légende, mène une expédition scientifique dans le nord Himalaya. C'est là que le célèbre Mumry, dont je vous parlais tout à l'heure, trouvera la mort quelques temps plus tard d'ailleurs. Malgré tout, il y a 100 ans, quand éclate la guerre de 14, aucun des très grands sommets au-delà de 7500, 7600 mètres n'a encore été conquis. Le Makalu, le Dholagiri, évidemment l'Everest, n'ont même pas été approchés. Sur des montagnes de cette importance, les deux obstacles rocheux et glaciaires, mais aussi les apics, même les avalanches, tout prend des proportions de géants. L'isolement des sites suppose par ailleurs la mise sur pied d'une organisation impressionnante, sans parler de la raréfaction de l'oxygène qui, évidemment, à de telles altitudes, devient un problème majeur. Quant au climat, extrêmement instable, avec des contrastes uniques au monde, il devient un véritable ennemi de l'escalade. Peu de guides et de porteurs de surcroît. Dans les maigres populations locales, les Tibétains nourrissent depuis de très nombreuses générations une peur religieuse de la haute montagne. Les premiers guides, il ne faut pas s'y tromper, les premiers guides dans l'Himalaya ont dû être importés de Suisse. Et pourtant, en dépit de toutes ces contraintes, ou peut-être à cause d'elle, les ascensions himalayennes vont littéralement monopoliser l'attention du public dans les années 1920-1930. Le Jungzong est gravi en 1930 par des membres de l'expédition de Günther Derenfurt. Le Kamet, qui fait 7755 mètres, est vaincu l'année suivante par une expédition britannique. Notez qu'on commence à utiliser des Sherpas locaux. Et en 1936, c'est la Nanda Devi qui cède 7820 mètres. Elle cède aux assauts d'une expédition américano-britannique. Et c'est un autre américain, Wissner qui, en 1939, parvient à 232 mètres sous le sommet du K2. On est là tout de même à 8382 mètres. Vous voyez qu'on a, on atteint des sommets extravagants. Et l'Everest, me direz-vous, eh bien, en deux fois plus haut ou presque. L'Everest fait un peu figure pendant longtemps de cervin asiatique, si je puis dire, pas moyen de le gravir jusqu'au sommet. Toutes les tentatives vont faire chou blanc, et quand le grand George Lee Mallory vient à en faire son défi personnel, on a une liste absolument impressionnante d'échecs jusqu'alors. Juste avant le déclenchement de la mousson 1924, il tente une fois de plus, parce que ça n'est pas sa première tentative, loin de là, il tente d'accomplir ce qui est le grand rêve de sa vie. Des camps ont été établis évidemment à différents paliers. Mallory, avec le jeune Andrew Irvine comme compagnon, va passer la première nuit au camp 5, la deuxième au camp 6. On est là à 8170 mètres. Vous avez compris qu'il y a des camps relais pour monter dans ces très très hautes altitudes himalayennes, bien entendu. Son idée est de suivre la crête de l'arête nord en dépit de la difficulté d'escalade supplémentaire que ça représente. Le matin du 8 juin 1924, le géologue de l'expédition qui s'appelle Odell et qui avait passé la nuit seul au camp 5, se met en route pour le camp 6 avec un sac de vivres pour les deux compères. Une légère brume s'accroche aux derniers escarpements de la montagne, nous dit l'ouvrage qui raconte cette expédition malheureuse, ce qui lui cache un peu la vue. Bientôt, il parvint au sommet d'un petit mur rocheux vers 7900 mètres d'altitude. Il s'arrête pour observer et pendant un instant, le brouillard s'éclaircit. Tout le haut de l'Everest, arêtes sommitales et pyramides terminales se dévoilent et bien haut, au-dessus de sa tête, il aperçoit deux silhouettes minuscules se détachant sur le ciel. Elles semblent au pied de l'un des deux grands ressauts à 200-250 mètres au plus au-dessous du point culminant. Sous le regard intense d'Odell, les silhouettes s'élèvent lentement, puis, aussi brusquement qu'il s'était ouvert, le brouillard se referme et les silhouettes disparaissent. Mais quand je dis disparaissent, il faut entendre disparaissent à jamais. Personne ne reverra plus ni Mallory, ni son compagnon, et personne ne pourra jamais dire s'ils ont été ou non les premiers vainqueurs de l'Everest. Cette montagne légendaire entre toutes, il faudra attendre 1953, le 29 mars 1953, pour que le néo-zélandais Edmund Hillary de l'expédition britannique Hunt en vienne à bout en compagnie du Sherpa Norgay Tenzing, et par la suite, tous les 8000, comme on les appelle, seront atteints dans la décennie jusqu'en 1962. Mais le grand exploit reste cette ascension du toit du monde, de cet Everest qui culmine à 8848 mètres et dont Pierre Mazeaud et son équipe seront les premiers Français à fouler le sommet en 1978. Bonjour Pierre Mazeaud.
Bonjour.
Vous avez donc été en 78 l'un des premiers Français à mettre les pieds au sommet de l'Everest. Avec vous, nous allons revenir sur cette extraordinaire expédition.
Vous me laisserez peut-être un peu parler, si vous m'avez fait venir, je vois qu'il est déjà 30 minutes de passé. Parce que je voulais simplement faire remarquer pour ceux qui nous écoutent que l'histoire de la montagne, telle que vous venez de la lire, avec quelques imageries d'Épinal, c'est pas du tout comme ça que ça s'est réellement passé. Et vous laissez supposer donc que c'est compte tenu de l'altitude que les montagnes sont les plus difficiles. C'est parfaitement inexact.
Ah non, puisque j'ai bien expliqué que le Cervin n'était pas à une très haute altitude, mais qu'il était très difficile.
Oui, il était très difficile.
Alors si vous voulez, Pierre Mazeaud, nous allons envoyer la publicité et puis... Mais vous avez une demi-heure. Vous avez une demi-heure pour nous.
Ah, une demi-heure seulement, on ne me l'avait pas dit. Mais enfin, sinon, je ne serais peut-être pas venu. Mais enfin, je vous écoute alors.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'alpinisme cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Mazeaud de l'Institut, ancien président du Conseil constitutionnel. Il a dirigé la première expédition française à gravir l'Everest en octobre 1978.
Pierre Mazeaud, qui vous aurez pu le constater, est un grand caractère, mais je pense que c'est sans doute...
Exactement comme vous, c'est l'historien.
C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs que vous ayez réussi un tel exploit. Il faut beaucoup de force personnelle pour accomplir, se lancer dans ce genre d'aventure. Alors, puisque vous me dites, Pierre Mazeaud, que j'ai lu des textes qui sont faux...
Je n'ai pas dit faux, monsieur. Mais j'ai dit des images exactes. Oui, bien que les historiens reprennent mot à mot ce qu'on leur dit.
Et des images d'Épinal, en l'occurrence, c'est vrai.
J'en avais fait une imagerie d'Épinal.
C'est vrai, mais je l'assume pleinement. Le but était de vous faire une sorte d'introduction pour...
Longue.
longue d'une
de 31
demi-heure.
Minutes. Enfin, c'est pas mal pour une émission d'une heure.
Bon, ce qui est très bien, c'est qu'on sait déjà quel sera l'extrait qui sera retenu pour le best-of de fin de semaine. Alors, pendant 31 minutes, comme vous le dites, j'ai essayé de raconter cette espèce d'immense saga de l'alpinisme depuis 1786 et la victoire sur le Mont Blanc jusqu'à cette ultime, en quelque sorte, frontière qu'était l'alpinisme himalayen pendant tout le XXe siècle. Alors vous êtes allé au sommet de l'Everest. Quand vous dites que ce ne sont que des images d'Épinal, etc., c'est parce que j'imagine très bien, et je pense que nos auditeurs le comprennent au moins aussi bien que moi, évidemment, quand on est sur place et quand on se confronte à la montagne, toutes ces images-là sont un peu superflues, sans doute.
Non, je n'ai pas dit que les images étaient superflues. Je vais vous dire pourquoi on n'avait pas été plus tôt à l'Himalaya, dans l'Himalaya, et notamment à l'Everest, qui appelait l'attention des alpinistes du monde entier dans la mesure où c'est le plus haut sommet du monde, comme le Mont Blanc, vous l'avez d'ailleurs rappelé, étant le sommet européen, ce dont on n'était pas sûr en 1786 d'ailleurs, appelait l'attention des alpinistes de la région dite du Mont Blanc, ou tout au moins des Alpes occidentales. Non. Tous les sommets de 8000 intéressaient effectivement les alpinistes le jour où on a pu pénétrer, compte tenu d'un certain nombre d'autorisations nécessaires, soit du Tibet, soit du Népal, au pied de ces géants himalayens, qui ont tous été vaincus pour la première fois par des voies dites classiques, c'est-à-dire les plus faciles. De même que Paccard a choisi la voie la plus facile du Mont Blanc, où aujourd'hui, au cours de l'été, il y a jusqu'à 400 personnes par jour. De même, les premiers Anglais, non pas Irvine notamment, mais les Anglais qui ont réussi, ils l'ont fait par le côté du Népal, qui est une voie excessivement facile. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas dangereuse, car il y a des dangers objectifs qui existent partout. Mais il y en a incontestablement beaucoup plus dans la voie du Népal. Voilà, moi j'ai eu l'autorisation, j'ai choisi un certain nombre de mes amis, des bons alpinistes, mais avant tout des amis avec lesquels j'avais déjà fait beaucoup de montagnes, c'est-à-dire qu'on se connaissait bien, ce qui facilitait bien sûr les rapports dans une longue expédition, puis on a eu la chance d'aller au sommet, voilà, point final.
Combien étiez-vous ?
On était 7, plus quelques Sherpas qui nous ont accompagnés jusqu'aux environs de 6005-6006, et en réalité, on a été trois au sommet, puisqu'on est obligé, comme vous l'avez dit d'ailleurs au cours de vos lectures, à un moment, vous avez fait appel à une succession de camps d'altitude.
Voilà, oui.
Donc on se change, on se repose dans les camps et on est remplacé par une autre équipe.
Ça, c'est la spécificité de l'alpinisme himalayen, c'est qu'il faut établir des camps relais progressivement.
C'était la spécificité à l'époque, de même que quand on a été pour la première fois au Mont Blanc, on a fait deux bivouacs. Bon, mais aujourd'hui, effectivement, les gens sont plus entraînés, le matériel est profondément différent. On connaît l'itinéraire, puisqu'il a déjà été fait, ce qui facilite et qui évite la recherche de nouvel itinéraire. Donc on va beaucoup plus vite.
Oui, il y a l'expérience.
Le Mont Blanc se fait en quelques heures. Il s'était fait quand même en 3 jours.
Le Mont Blanc, comme le Mont Cervin d'ailleurs en 65, était quand même, 1865, était quand même proche d'agglomération. On était quand même en pleine Europe. Donc il n'y avait pas toute la difficulté,
C'est évident, encore que vous savez, à l'époque, en 1786, pour atteindre Chamonix, qu'on appelait à l'époque Chamonix, c'était pas facile non plus. Bon, enfin, effectivement, pour atteindre le pied des hauts sommets himalayens, bon, c'est assez complexe, même si peu à peu, certaines avancées facilitent la pénétration de ces mêmes montagnes. Voilà, mais ça, c'est des évolutions normales.
Vous avez fait combien de tentatives avant de réussir cette ascension de l'Everest ?
J'avais été choisi comme alpiniste français dans une expédition internationale quelques années avant, en 71.
Mmh. Et là, vous étiez dans dans l'équipe, si je puis dire, et vous avez pris la direction de l'équipe en 78. C'est vous qui...
78, oui, parce que j'avais eu la possibilité d'obtenir précisément une autorisation du gouvernement du Népal, en revenant de notre échec en 1971. J'ai donc profité de cette autorisation pour pouvoir partir en 78.
Est-ce qu'il y a une spécificité de l'alpinisme français? Vous allez dire que je reviens avec mes images d'Épinal, mais est-ce que nous avons des méthodes? Est-ce que nous avons un style particulier, les Français, par rapport aux Anglo-Saxons, dont on a vu qu'ils avaient été particulièrement efficaces dans la conquête progressive de tous les sommets de la planète?
Oui, beaucoup dans les Alpes, parce que c'était des gens qui avaient monté ce qu'on appelle l'Alpine Club, le grand club alpin anglais, qui avaient beaucoup d'argent. C'était pas des alpinistes, en dehors, je dirais, de Mumry, qui lui était tout à fait spécial, autre chose que Wimper. Mais il payait des guides très chers de Zermatt, d'Albert Boden, de Chamonix ou d'ailleurs. Et ces guides étaient incontestablement les meilleurs alpinistes, si on peut employer ce terme pour eux à l'époque. C'était plutôt des chercheurs de cristaux ou de chasseurs de chamois, c'est-à-dire qui connaissaient la montagne pour la courir, et je ne dis pas par là même qui connaissaient les sommets, mais payés, effectivement, et assez chers, par ces Anglais. Ils ont découvert la plupart des sommets, effectivement, des Alpes à cette époque-là.
Et quelles ont été, d'après vous, les spécificités françaises? Est-ce qu'il y a une école française d'alpinisme, d'une certaine
manière? Il y a une école française, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de spécificités particulières, dans la mesure d'ailleurs où les voyages étant beaucoup plus facilités, on a beaucoup plus de contacts avec les Anglo-Saxons, j'ai eu beaucoup de contacts avec les Américains, j'ai eu des contacts un peu avec tous les... j'ai grimpé avec pas mal de gens du monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de différences, puisque l'un prend... pour ses propres méthodes et ses propres techniques, les techniques des autres. C'est une sorte d'amalgame. À l'époque, effectivement, et en tous les cas au lendemain de la guerre de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a eu incontestablement un développement considérable de l'alpinisme français avec Pierre Alain, Des Maisons et d'autres, qui ont été Berardini et combien d'autres. Parallèlement, d'ailleurs, l'Italie faisait la même chose avec des gens comme Bonatti ou autres.
Est-ce qu'il y a, ça c'est une question qu'on se pose évidemment, quelles ont été selon vous les grandes révolutions techniques? Est-ce qu'il y a des inventions qui ont permis de faire des progrès considérables à l'escalade?
Bien sûr, c'est évident que on n'en est plus à l'époque de 1786 où Balma allait avec un bâton, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord aujourd'hui, on a un matériel beaucoup plus adapté. Un certain nombre d'innovations font qu'aujourd'hui, le matériel actuel le plus performant aide considérablement certaines situations, notamment dans ce qu'on appelle le mix, c'est-à-dire où il y a à la fois de la glace et du rocher. Les Anglo-Saxons ont fait des innovations assez considérables dans ce domaine, dont on se sert naturellement. Voilà, mais c'est normal, c'est comme toutes les disciplines sportives, ça avance. Monsieur Jasoven faisait 10 secondes 10-2 aux 100 mètres à Berlin, aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on en est à 9,79. Les choses évoluent.
Mais sur les méthodes employées, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Ce qui m'a beaucoup frappé dans les fameuses lectures que j'ai dû faire pour préparer le récit introductif de cette émission, Pierre Mazeaud.
Ça vous est resté.
Ça m'est resté. Oui. Je pense que ça va nous rester pour un petit moment. Vous nous aurez marqué, vous voyez. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'accidents liés à ces fameuses cordées, en fait. On a l'impression que ces cordées, qui sont destinées évidemment à éviter que les gens ne tombent individuellement, ont emporté au ravin un grand nombre d'alpinistes. Est-ce que c'était la bonne idée d'être tous encordés de cette manière?
Ouais, écoutez, on le fait encore, alors je ne pense pas que ce soit une très mauvaise idée. On le fait notamment pour les courses de rochers purs, alors le grand et le beau rocher des Dolomites par exemple, où effectivement celui qui est en tête et qui grimpe est assuré par le second. Le second qui lui a des points d'attache, d'ancrage, un certain nombre de pitons. Bien, s'il tombe, il doit être tenu. Si la corde casse, c'est autre chose. Mais là, dans l'accident du Servin, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, si la corde a cassé, il est vrai que c'était les premières cordes que l'on connaissait en chambre, qui n'étaient pas très solides.
Oui, d'ailleurs, les cordes en question ont été retrouvées par la suite,
oui, bien
et ça
sûr,
a fait, ça a fait toute une affaire.
Bien,
oui,
voilà. On a même d'ailleurs retrouvé exactement quelques cordes de l'Everest, car vous nous disiez tout à l'heure qu'on n'a jamais retrouvé, si on a retrouvé Irvine. Mais enfin, peu importe. Bon, aujourd'hui, on a des cordes en nylon qui sont étudiées par des très grands spécialistes, comme Pez.
Irvine qui était avec Mallory, vous voulez dire, on a retrouvé son
Mallory,
corps.
C'est ça. Bon, enfin, donc, peu importe. Aujourd'hui, le matériel donne beaucoup plus de sécurité. Donc, on va plus vite, puisqu'on a plus de sécurité. Donc, c'est des évolutions qui sont tout à fait normales, auxquelles on se doit d'applaudir, comme dans toute discipline sportive, d'ailleurs, car quand même, la montagne, si elle se différencie des autres disciplines sportives, c'est parce qu'on y risque sa vie. C'est d'ailleurs tout ce qui fait de l'intérêt de l'alpinisme.
Alors après toutes ces généralités, quelques aspects bien précis de votre propre expérience, Pierre Mazot, nous y venons dans un instant.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'alpinisme cet après-midi avec vous, Franck Ferron, et votre invité Pierre Mazot de l'Institut. Ancien président du Conseil constitutionnel, il a dirigé la première expédition française à gravir l'Everest. C'était en octobre 1978.
Il faut dire, Pierre Mazot, que vous avez passé votre enfance à Grenoble, donc vous étiez à pied d'œuvre en quelque sorte.
Hein. Effectivement, oui, j'étais au pied des montagnes, donc... Ça ne manque pas de vous attirer.
Et c'est votre père qui vous a emmené à la montagne, si je puis dire ?
Effectivement, oui. Il a fait beaucoup de montagnes, enfin, de son époque. Et il m'emmenait faire quelques sommets qui entouraient la ville de Grenoble, dans le Vercors ou ailleurs. Et ça m'a plu.
Qu'est-ce qui vous a plu dans la montagne, je peux vous demander ?
Bah, d'abord, une certaine liberté que je manifesterai plus tard dans d'autres périodes de ma vie.
N'est-ce pas ?
Et puis également la solitude, notamment dans de longues expéditions, j'en ai fait 7 à l'Himalaya, des expéditions qui étaient assez longues à mon époque, ça remonte déjà à plus de 30 ans, on a le temps de réfléchir, de penser. Vous voyez, pour un historien que vous êtes, c'est une certaine bonne chose. Vous pourriez faire des expéditions à l'Himalaya.
Je suis dans la mer, si vous voulez. Chacun son domaine.
Chacun son.
Alors, il y a cette prédisposition familiale, si l'on peut dire, qui correspond à votre tempérament, incontestablement. Quels sont vos premiers grands souvenirs d'ascension? Quelles sont les premières montagnes auxquelles vous vous êtes colleté?
Bon, les toutes premières, je suis passé dans les Alpes, dans le massif de Chamonix, les aiguilles de Chamonix, des voies qui étaient relativement faciles, parce qu'on commence toujours par le plus facile. Et puis vient une époque où on a non seulement envie de faire des voies difficiles, même très difficiles, on veut être à l'origine d'un nouvel itinéraire. Ça s'appelle dans notre jargon faire des premières. J'en ai fait un certain nombre dans les Alpes, et quand j'ai eu la possibilité... Du fait, je le répète, d'un certain nombre d'autorisations, d'aller dans l'Himalaya, j'y ai été. J'aurais pu aller dans la Cordillère des Andes, que vous avez cité tout à l'heure, mais le président Pompidou m'avait prié de rester, puisque c'était l'occasion de sa propre élection présidentielle. J'avais donc pas pu partir avec certains de mes amis dans la Cordillère des Andes. Enfin, dans l'Himalaya, j'y ai été 7 fois. Bon, je suis loin d'avoir tout fait. Mais enfin, d'avoir vu au moins ce massif assez exceptionnel.
Vous dites, dans un des ouvrages que je vais citer, bien entendu, où vous racontez toutes ces extraordinaires aventures, que vous avez perdu quelques 47 camarades de montagne.
Oui, français et étrangers, je parle de l'ensemble, oui, à peu près.
Et il y en a, bien sûr, il y a des pertes qui vous ont marqué particulièrement. Il y a eu un drame en 1961, il faut peut-être raconter.
Oui, je pense que c'est un des plus grands drames de la montagne, puisque nous étions... avec Bonatti et 4 autres camarades. Et les 4 sont morts et nous sommes revenus simplement à 2, Bonatti et moi, du pilier du Fresnay, qui était le dernier itinéraire à ouvrir au Mont-Blanc. Côté italien, naturellement, car côté français, c'est relativement facile, même très facile. Côté italien, ce sont vraiment des grandes murailles de rochers qui atteignent 1200, 1500 mètres, quoi.
Et ça, j'imagine qu'après un drame comme celui-là, vous avez dû hésiter à repartir.
Pas du tout, au contraire, je suis reparti dès que j'ai pu. Et j'étais parti justement au Cervin en hiver, dans la face nord du Cervin, 6 mois après. Parce que j'avais fait un stage assez long à l'hôpital, dans la mesure où j'avais eu les pieds gelés au moment de l'accident du Fresnay.
Est-ce que cet accident a joué un rôle essentiel dans votre vie? La question est évidente, j'imagine que oui, mais au-delà de votre propre vécu intérieur, est-ce que ça a joué un rôle dans votre carrière, par exemple? Est-ce que c'était un déclic pour vous?
D'abord, je ne peux pas dire que ça ait servi ma carrière, car on aurait plutôt préféré ceux qui m'entouraient dans ma carrière que je ne fasse pas de montagne dans la mesure où il y a un élément évidemment dangereux. Oui. Bien. Donc, pour moi-même, c'était incontestablement un déclic dans la mesure où il est dur de perdre ses 4 meilleurs amis au cours d'une même course en montagne. Bon. Ça m'a amené peut-être à des réflexions plus profondes. Et une chose qui étonne en général quand je le dis, c'est pour ça que je me permets de le dire ici, ils sont morts jeunes, ils avaient entre 20 et 26 ans, où ils souhaitaient mourir. J'avais d'ailleurs trouvé ça dans Blaise Cendrars, parlant de la mort de son fils qui s'était tué en avion et qui disait « il est mort où il souhaitait mourir ». Et c'est vrai. Et j'ajoute aujourd'hui, étant un très vieux monsieur, mais ayant toujours le caractère jeune, du moins je pense que vous en êtes rendu compte,
oui,
je m'aperçois que je ne les verrai jamais vieillir et ils ne me verront jamais vieux. Voilà.
Vous avez, après l'expédition de 1978, fait de nouveaux séjours dans l'Himalaya. Vous avez fait de nouvelles tentatives et de nouveaux exploits,
oui,
si je puis dire.
On a été au Nanga Parbat.
Oui.
Nanga Parbat où nous avons réussi. Kinsofer était dans mon expédition avec d'autres Allemands. On était liés, on avait réussi le sommet du Nanga Parbat, qui pour moi c'est dans le Pakistan, et c'est un sommet de 8000, est un des plus belles montagnes du monde. Puis après on a été au Geshe Burm 1, Geshe Burm 2, on a été au Broad Peaks, j'ai fait un certain nombre.
Tout ça sont des montagnes de plus de 8000 mètres, il faut le dire. Oui. Donc alors vous m'avez dit, parce qu'on a même commencé par ça, que ça n'est pas l'altitude qui fait la difficulté. C'est quand même l'altitude qui fait la difficulté logistique, ça c'est incontestable. Alors après,
maintenant, dans la mesure où je répète qu'on va très vite. J'ai fait des choses, la course la plus difficile que j'ai faite, c'est avec René Desmaisons dans les Dolomites, pour monter simplement 300 mètres, c'est-à-dire la hauteur de la Tour d'Eiffel. On a mis 9 jours et 8 nuits, donc c'est autrement plus difficile que l'Himalaya, et même les grands Himalayens qui ont été dans les Dolomites et qui ont refait la voie que nous avions ouverte en 1958, il y a longtemps, avec des maisons, considèrent que c'est une des voies de rocher les plus difficiles. Donc je veux dire, je compare pas la difficulté liée à l'altitude, elle l'était à l'époque, d'où évidemment l'emploi d'oxygène, ce que j'ai d'ailleurs... il faut que je le dise, employé à partir de 8000, dans la mesure où j'avais fait monter de l'oxygène.
En l'occurrence. Ouais.
Et maintenant, toutes les autres expéditions que j'ai faites, j'ai toujours amené de l'oxygène, on ne s'en servait pas, mais je la laissais dans les camps d'altitude pour éviter que celui qui est fatigué fasse un édème du poumon, voire du cerveau, qui est évidemment beaucoup plus grave.
Alors, quand vous êtes seul dans les grands espaces, dans la montagne, etc., vous êtes en méditation, on a bien compris, vous êtes avec vous-même d'une certaine manière. Vous nous avez parlé de ces drames, de ces amis très proches. On imagine ce que peut être la perte de camarades de montagne comme ça. Vous-même, vous êtes passé donc, j'imagine, très près de la mort un certain nombre de fois.
Oui, plusieurs fois, bon, j'ai eu la chance, quoi. Enfin, quand on est vieux, on se demande si...
C'est une chance.
Si c'est une chance, oui. Je vous demande pas d'y répondre, vous êtes jeune. Mais effectivement, on est en droit de se poser la question. Non, mais c'est sûr que c'est une... C'est pour ça que c'est pas tout à fait une discipline sportive, comme je le disais tout à l'heure, car il y a le danger, le risque. Ce qui est d'ailleurs un des attraits essentiels, voire fondamentaux de l'alpinisme.
Oui, vous pensez que c'est le risque qui attire les alpinistes
là-haut? C'est la seule discipline sportive où on risque sa vie. C'est pas le nageur dans un bassin de 50 qu'il risque beaucoup, ou un coureur de 400 dans une piste d'athlétisme. Ou alors c'est le pilote d'automobile, mais c'est la machine, il n'est pas seul.
Alors j'ai ici quelques-uns de vos anciens ouvrages, évidemment Pierre Mazot, Des cailloux et des mouches ou Échec à l'Himalaya, Everest 78, ça c'était chez De Noël, et puis j'ai des ouvrages beaucoup plus récents, dont un préfacé par Walter Bonatti dont vous nous parliez tout à l'heure.
C'est le plus ancien, mais c'est une réédition.
Réédition.
Oui, parce qu'il est très ancien.
Ça s'appelle Montagne pour un homme nu, oui, c'est chez Artaud. Ouais. Et puis trois récits mythiques, avant-première à l'Everest, Everest 78 dont je parlais, qui est une, donc en réédition, et Everest sans oxygène, également édité chez Artaud. Des récits, alors il y a le vôtre, enfin les vôtres, et puis de Gabriel Chevalet, René Diter, Raymond Lambert, ouais, et Reinhold Messner, des habitués de l'Everest d'une certaine manière.
Oui, les deux premiers que vous avez cités, Lambert et Diter, sont morts. Sont morts, hélas, oui. Depuis longtemps, mais Reynold est toujours en vie et continue toujours à faire de la montagne dans ses chers Dolomites.
Je regrette, Pierre Mazot, que nous n'ayons pas une demi-heure de plus pour parler de cette montagne et de votre expérience, mais je me dis que si j'avais su, j'aurais évité le récit introductif. Nous serions entrés de plein pied dans les sommets.
Pas du tout, ça nous a donné au moins l'occasion de connaître nos caractères respectifs.
Exactement.
Et vous permettrez à un juriste de dire qu'il respecte beaucoup les historiens, d'autant plus que je suis entouré à l'Institut, à l'Académie Sciences Morales.
N'est-ce pas, oui, d'un certain nombre de mes proches amis. Mais ouais. Oui, merci beaucoup, Pierre Mazot, et merci à vous d'avoir de nous avoir suivis dans ces altitudes.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Lucille à propos des origines du salut militaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand cet après-midi à la question de Lucille qui nous l'a envoyée via le Twitter de l'émission. Elle aimerait savoir d'où vient le geste du salut militaire.
Alors, vous savez que lorsque deux militaires se rencontrent, ils effectuent donc ce salut réglementaire. C'est un signe à la fois de respect mais également de fraternité. En France, le soldat se tient debout, les pieds joints, les bras le long du corps, puis il porte la main droite à sa tempe, la paume ouverte vers l'avant, et presque vers le ciel, et les doigts joints. Et pour finir, il rabat son bras en faisant claquer la main sur sa cuisse. Selon les pays, il peut exister quelques variantes. Aux États-Unis, par exemple, le salut, c'est presque la même chose, mais la paume, vous savez, est complètement tournée vers le sol. En Pologne, en revanche, on porte seulement l'index et le majeur au front, etc. Alors, à l'origine, ce geste était un geste de paix. Il faut pas l'oublier. Hein. Il s'agissait de montrer sa main droite afin d'éviter tout malentendu, pour montrer clairement qu'on n'était pas armé. Ce salut, il s'effectuait entre ennemis. Là, maintenant, c'est devenu systématique. Et puis on salue de gradé inférieur à gradé supérieur. Au Moyen-Âge, la signification de ce geste a évolué. À cette époque, on organisait de grands tournois, vous savez, les grands tournois en lice, et à l'occasion des joutes équestres, les deux cavaliers s'affrontaient face à face, munis d'une lance, et ils devaient charger l'adversaire afin de le faire chuter. C'est ce qui s'est passé au moment de la mort d'Henri II, en 1559, dans le fameux tournoi des Tournelles, vous savez. Bon, eh bien, au moment de passer à l'action, les jouteurs, en signe de courtoisie, ils se croisaient déjà une première fois, le visage découvert. Or, à cette époque-là, évidemment, les cavaliers étaient complètement couverts d'acier, hein, ils étaient dans leurs armures qui les protégeaient de la tête aux pieds, et pour dévoiler leur visage, ils devaient porter la main droite à leur aume afin de relever la visière. Vous voyez le geste qui préfigure déjà le geste du salut militaire. Un signe de respect, donc, qui a perduré quasiment jusqu'à aujourd'hui, en acquérant un caractère de plus en plus formel, disons, et de moins en moins investi. Alors, pour ce qui est du salut militaire employé aux États-Unis et au Canada, pourquoi la paume est-elle tournée vers le sol? Mais autrefois, ce salut dans la marine était réservé aux officiers, et l'équipage, dont les mains étaient salies par le goudron, etc., l'équipage cherchait à cacher les mains sales, tout simplement, en tournant le plus possible la main. C'est une question quasiment de politesse, et c'est devenu maintenant le salut réglementaire. Vous voyez que ce qui est intéressant avec toutes ces explications, c'est que finalement, ce sont des causes tout à fait pratiques, tout à fait concrètes, qui peu à peu se sont formalisées et sont devenues, eh bien, des gestes quasiment de réflexe.